Dans le cadre des poursuites pénales, on va rechercher beaucoup plus loin. Pourquoi est-ce que le matériel est tombé sur l'ouvrier? Pourquoi est-ce que l'ouvrier était à cet endroit à cet instant-là? Est-ce qu'il était censé être là? Je fais ce métier maintenant depuis 8 ans. J'ai suivi pas mal d'accidents de travail. J'en ai pas un qui est passé en juridiction de fond. On a eu récemment une affaire d'un accident mortel. Et là, bien évidemment, toute l'équipe a dû être prise en charge aussi d'un point de vue psychologique.
Bonjour à toutes et à tous à l'écoute de ce nouvel épisode de notre podcast Histoire d'avocat. J'accueille Maître Nora Dupont, avocate à la Cour et senior associate au sein de l'étude Claire Grasso. Bonjour Maître Dupont.
Bonjour.
Alors vous êtes spécialisée en droit pénal, c'est une vaste matière du droit, mais aujourd'hui nous allons évoquer une branche particulière, c'est le droit pénal qui s'applique aux accidents du travail. Alors pourtant quand on parle d'accidents du travail, on pense surtout à l'association d'assurance accident qui indemnise les dégâts matériels et prend en charge les soins ou l'indemnité en cas d'incapacité de travail. Alors que vient faire le droit pénal dans un accident du travail?
Alors, les employeurs sont, de manière générale, ils ont cette obligation de santé et sécurité sur le lieu de travail. Donc, cette obligation, elle englobe en fait tout un tas d'éléments que l'employeur doit mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés sur le lieu de travail. Et en général, les manquements à ces obligations sont pénalement sanctionnables. Donc, et moi je pars maintenant pour notre discussion peut-être d'un accident de chantier, puisque c'est le plus simple et on arrive à bien s'illustrer cela. Dans le cadre d'un tel accident, j'ai l'ITM qui vient sur place, donc l'inspection du travail des mines, et généralement aussi la police. Et donc, si j'ai par exemple un accident fatal sur un chantier, normalement, le parquet se saisit soi-même directement et charge la police judiciaire d'une enquête parce qu'on est dans le contexte éventuellement d'un homicide involontaire. Ça peut également être le cas pour des affaires de blessures graves. Maintenant, pour les petites blessures, peut-être plus quotidiennes, généralement, il n'y a pas de poursuite pénale. Donc, on a ces deux voies, donc généralement les coups et blessures involontaires, l'homicide involontaire, et qui sont mis ensemble avec des manquements à ces obligations de santé et sécurité sur le lieu de travail qui sont également pénalement sanctionnables.
Donc, c'est pour ça que c'est là qu'intervient l'avocat, en fait. Il intervient au courant de la procédure pour défendre l'employeur ou l'employé pour déterminer les circonstances de l'accident et finalement à qui revient la faute.
Oui, exactement. Donc nous, surtout, on intervient pour les employeurs, respectivement pour d'autres salariés qui seraient entendus en tant que personnes étant susceptibles d'avoir participé à une infraction, mais généralement, chez nous, c'est les employeurs, parce que généralement, c'est les employeurs qui sont poursuivis. Donc, la personne morale, ce qui n'exclut pas qu'une responsabilité pénale pourrait également être recherchée par rapport à une personne physique dans le cadre d'une telle enquête. Mais nous, on est donc là pour assister dans le cadre de cette procédure, généralement de A à Z.
Alors, est-ce que c'est facile de déterminer les causes d'un accident? Est-ce que ça vient, parce que généralement, quand on entend parler d'un accident du travail, on va dire d'importance, en effet fatal ou quoi, à la radio ou à la télé, on va dire voilà ce qui s'est passé. On a l'impression que très rapidement, on sait ce qui s'est passé. Mais dans les faits, est-ce que c'est le cas?
Alors, la réponse préférée de l'avocat, ça dépend. Donc, généralement, la première cause, donc la cause immédiate de l'accident, généralement, elle est assez claire. Coup classique, un ouvrier qui tombe d'un échafaudage, il est tombé, il n'avait pas son harnais de sécurité, par exemple, ou il y a un engin qui tombe sur un ouvrier. Donc, la cause immédiate, généralement, elle est assez claire. Mais dans le cadre des poursuites pénales, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher beaucoup plus loin. Pourquoi est-ce que le matériel est tombé sur l'ouvrier? Pourquoi est-ce que l'ouvrier était à cet endroit, à cet instant-là? Est-ce qu'il était censé être là? Donc là, les causes où on va plus loin, à tout ce qui est plus sous-jacent, en fait, on va rechercher dans le cadre des affaires pénales. Et là, pour le coup, c'est plus difficile de déterminer parce qu'en fait, on a une chaîne d'éléments qui ont contribué un peu à un effet domino à la survenance de l'accident. Après, ce qui est clair, il y a aussi des accidents où la survenance même est beaucoup plus compliquée parce que, par exemple, l'accident même est un résultat de certaines causes, conditions météorologiques, ensemble avec le sol, ensemble avec peut-être un blindage qui est mal mis. Donc, voilà. Mais en général, la première cause, la cause immédiate de l'accident, est assez claire.
À ce moment-là, il faut mener en fait une enquête, même à l'intérieur de l'entreprise, en fait, pour reprendre tout ce qui s'est passé ce jour-là.
Oui, généralement, nous, on recommande toujours, et les employeurs ont toujours ce réflexe, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Généralement, aussi dans ces entreprises-là, il y a un canal de communication aussi par rapport à un salarié désigné qui fait cette enquête pour voir quelle était réellement la cause. Parce qu'en interne, ça doit être compris aussi. Et dans le cadre des accidents plus graves, généralement, les entrepreneurs font en sorte d'avoir immédiatement aussi une expertise, hein, des expertises techniques qui sont bien évidemment, il y en a surtout qui sont ordonnées après dans le cadre de l'enquête pénale. Mais généralement, on dit, nous, on fait aussi de notre côté, on va faire une expertise pour connaître un peu les causes si c'est quelque chose qui est plus compliqué.
C'est vrai qu'un accident du travail, c'est aussi des conséquences dans l'entreprise. Sur l'équipe, par exemple, qui travaillait avec la personne blessée, l'employeur doit gérer cette procédure-là, mais aussi la vie qui continue dans son entreprise et peut-être déjà tirer les leçons de l'accident.
Oui, absolument. On a eu récemment une affaire d'un accident mortel et là, bien évidemment, toute l'équipe a dû être prise en charge aussi d'un point de vue psychologique. Et ce qu'on voit assez souvent, même si l'entrepreneur a des dispositifs de sécurité qui sont en place et qui, à notre sens, sont efficaces aussi, il n'en est pas moins que généralement des rappels de sécurité sont faits, hein, suite à des accidents. Mais il est clair que aussi psychologiquement, il faut entourer le reste des salariés, ceux qui ont peut-être aussi été témoins, hein, de l'accident, parce que c'est quand même assez difficile à vivre, surtout si on parle d'accident grave.
Alors, on parle d'une procédure qui peut durer longtemps. Est-ce qu'on arrive à chaque fois à un procès ou est-ce que parfois l'affaire se perd ou est bloquée ou...
On sait que voilà, ces affaires, d'un point de vue de la procédure pénale, prennent énormément de temps. Maintenant, il y a des alternatives. Soit l'affaire est clôturée sans inculpation, donc avec sans renvoi. Soit le parquet décide de classer l'affaire, donc une affaire sans instruction. Ce qui est cependant possible que si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de fond, il n'est pas exclu qu'on puisse s'arranger avec le parquet moyennant un jugement sur accord. Si par exemple, les infractions qui sont mises à la charge de l'employeur ne sont pas autrement contestées, parce que dans ce cas, on évite aussi un procès public dans lequel on passe aux aveux. Donc, voilà. Mais généralement, ces affaires prennent énormément de temps. Moi, je fais ce métier maintenant depuis 8 ans. J'ai suivi pas mal d'accidents de travail. J'en ai pas un qui est passé en juridiction de fond pour l'instant.
Depuis 8 ans ?
Depuis 8 ans.
Ah, donc, c'est extrêmement long.
Oui.
Ça veut dire que pendant tout ce temps, l'employeur, il a cette épée de Damoclès sur la tête de quelque chose qui est en cours et peut-être une forte amende, voire de la prison qui peut lui être requis.
Oui, si c'est la personne morale qui est poursuivie, et je pense que c'est un peu aussi le train pour l'instant, parce qu'aussi au niveau de la solvabilité, généralement, c'est la personne morale qui est poursuivie, bien que cela n'exclut pas la poursuite aussi des personnes physiques s'il y a des délégations de pouvoir. Mais on a observé un peu le train de dire, voilà, c'est plus les personnes morales qui sont poursuivies. Alors, dans ces circonstances, il n'y a pas de peine d'emprisonnement, mais bien évidemment des amendes. Et ce qui est vicieux, c'est que s'il y a des condamnations qui sont inscrites au casier judiciaire, le risque de ne plus pouvoir participer, par exemple, à des marchés publics est énorme.
Oui.
Raison pour laquelle ces affaires-là, les affaires d'accidents de travail, donc coups et blessures ou homicides involontaires, ensemble avec des manquements sécurité et santé sur le lieu de travail, peuvent avoir des conséquences gravissimes.
Alors que s'il y a un jugement sur accord, du coup, il n'y a pas d'inscription au casier judiciaire.
Si. C'est juste, en fait, c'est la même chose comme un jugement qui est rendu en audience publique. C'est juste que on évite un procès plus public dans le cadre duquel toute l'affaire est débattue. C'est juste, on passe en accord avec le parquet, on se met d'accord sur les infractions mises à notre charge et on règle l'affaire ainsi. Le jugement sera quand même rendu en audience publique, mais l'affaire en tant que telle n'est pas débattue en audience publique, mais les conséquences sont les mêmes.
Mmh. Donc, il n'y a pas de différence entre le jugement sur accord et un jugement prononcé par un juge après une audience.
Non.
D'accord. Non. Que risque la personne morale, donc on va dire l'entreprise, si elle est reconnue coupable de manquement aux règles de sécurité?
Il y a pas mal de risques, malheureusement. Donc, on a donc le risque d'une condamnation hein, à une amende qui est inscrite au casier. Si on parle maintenant en condamnation en personne, personne morale, il peut y avoir des confiscations, il peut y avoir d'office des exclusions à la participation de marché public. Donc ça, c'est quelque chose qu'un juge, au fond, pourrait même décider. Donc ce n'est pas que ex post que je ne peux plus participer parce que j'ai une inscription au casier, mais un juge, du fond, peut décider mon exclusion à la participation des marchés publics, ce qui est quand même une sanction assez lourde dans la mesure où il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui dépendent aussi hein, des marchés publics.
Et c'est vrai que quand on parle de construction, bon, les marchés publics, c'est un peu la façon pour un entrepreneur d'obtenir un chantier.
Exactement, exactement. Et nous, quand on parle de manière générale d'accidents de travail, bien évidemment, tout ce qui est chantier, ben, c'est le plus parlant. Et ce qui est clair, c'est que ces entrepreneurs-là sont a priori le premier à s'exposer à de tels risques. Alors, on va pas se mentir, nous, au bureau, l'accident de travail, c'est peut-être plus difficile que des métiers à risque où il y a un risque inhérent déjà au métier même.
Et qu'est-ce qui se passe si jamais il y a vraiment une inscription au casier et une interdiction de participer à des marchés publics? C'est la mort de l'entreprise, souvent.
Ça dépend aussi de l'entreprise, hein. Ça, c'est clair.
Est-ce que les entreprises sont conscientes de ce qu'elles encourent si en effet un accident du travail intervient et qu'elles sont à mettre en cause pour leur manquement?
Je ne suis pas certaine. Je pense que bon, chaque entrepreneur, bien évidemment, et chaque employeur est conscient de cette obligation santé et sécurité sur le lieu de travail. Je pense que chacun est conscient qu'il s'expose à des poursuites pénales, mais les conséquences, vraiment les conséquences d'une condamnation, je pense que on n'est pas vraiment conscient. Bien évidemment, le commun des mortels ne connaît peut-être pas ces conséquences. Nous, en tant que juristes, on les connaît, mais je pense que il y en a pas beaucoup qui sont vraiment conscients ce qu'un infime manquement à une telle obligation. Parce que si on monte dans la chaîne des événements qui ont éventuellement produit cet accident, par exemple un manque de formation, ce qui est peut-être une partie infime, peut causer et peut avoir comme conséquence. Je ne pense pas que chacun soit vraiment conscient de cela.
Est-ce que vous avez l'impression que ce contentieux augmente alors qu'à côté de ça, depuis plusieurs années, il y a ces campagnes de prévention, il y a cette campagne de vision zéro, zéro accident, zéro blessé grave. Est-ce que pour autant, les accidents sont toujours aussi nombreux?
Je ne sais pas si le contentieux augmente forcément. Je pense que peut-être on entend plus parler en fait des accidents parce que c'est toujours à mon avis plus médiatisé. Je pense qu'on est plus facilement au courant des graves accidents hein, de travail. Mais ce qui est certain, c'est que les autorités deviennent de plus en plus sévères, notamment avec cette optique de la stratégie vision zéro. Mais il faut aussi dire que la prise de conscience chez les employeurs pour tout ce qui est vision zéro, elle est quand même très grande. J'ai suivi 2-3 entrepreneurs aussi dans le cadre de la mise en œuvre de quelques de ces procédures dans le contexte de la vision zéro et je pense que la conscience, elle est quand même là. Ce qui est cependant très vicieux, c'est que un accident est un événement qui peut arriver et même si je mets toutes mes mesures en œuvre pour garantir la sécurité, il n'est jamais exclu qu'un accident pourrait survenir. Bien évidemment, si j'ai des procédures qui sont stables et j'ai des procédures qui sont efficaces en matière de santé et sécurité sur le lieu de travail, j'ai un bon suivi de la formation que suivent mes employés, je réduis évidemment mes risques. Et je pense que tout ça fait partie de cette vision zéro.
Parce que le contentieux, finalement, c'est le parquet qui va attaquer en fait l'employeur. Est-ce qu'il arrive aussi que la victime ou la famille de la victime attaque l'employeur au pénal?
Non, parce qu'en fait, on a cette disposition de l'article 135 du Code de la Sécurité sociale qui, en fait, limite donc les recours par les victimes ou ses ayants droit, étant donné que l'association Assurance Accident indemnise. Donc, les parties civiles des salariés blessés, par exemple, contre leur employeur, sont déclarées irrecevables sur base de cet article-là. Donc, généralement, c'est vraiment le parquet derrière qui est la force qui fait avancer l'affaire. Ce ne sont a priori jamais les salariés.
Alors pour le coup, les salariés peuvent se retourner contre l'association d'assurance accident si l'indemnisation qu'il aurait octroyée ne correspond pas à ce qu'il pense avoir, avoir subi.
Oui, ça c'est encore un volet à part, mais je pense que de manière générale, ces indemnisations sont très justes. Et ce qui est très bien, puisque si à chaque fois on devait attendre un jugement dans le cadre d'une affaire pénale pour un manquement, respectivement pour ces affaires-là, je pense que le salarié est blessé, respectivement ses ayants droit, s'il devait attendre à chaque fois un jugement, ce serait trop long.
Oui, ce serait plusieurs années d'attente interminable.
Mmh. Ouais.
Est-ce que vous avez des affaires qui vous ont marqué particulièrement?
On essaie toujours que les affaires ne nous marquent pas trop. Mais bon, chaque affaire d'accident de travail, surtout les accidents mortels, oui, ça nous marque, bien évidemment. Même si on est du côté de la défense, nous, on n'oublie jamais que derrière, il y a une victime, il y a des proches, il y a de la famille qui est derrière. Et je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est que même si on prend la défense de l'employeur, ça ne veut pas dire que l'employeur n'a pas une conscience par rapport à ce qui s'est passé, ce qui est réellement en cause. On prend la défense parce qu'on dit, voilà, les poursuites doivent être justes, une sanction doit être juste, on défend les intérêts de l'employeur, on défend peut-être les procédures qu'il a mises en place, mais on n'oublie jamais derrière qu'il y a une victime, il y a des proches. Je pense que ça, c'est très important aussi de dire.
Cliché. Les employeurs rechignent à investir dans la sécurité et la santé au travail.
Je pense que assez souvent, cette idée que des accidents surviennent parce que pour des raisons financières X, Y, l'employeur a peut-être laissé de côté des mesures de sécurité ou s'est dit, bon, les formations, on n'en a pas besoin. Et je pense que cette idée est fausse. Il faut toujours se mettre à la place aussi des gens qui travaillent au sein d'une entreprise. Par exemple, si on parle formation, la jurisprudence est très, très claire en disant la formation acquise sur le terrain, donc toute l'expérience que j'acquiers sur le terrain, ne suffit pas. Donc, je dois faire des formations qui sont agréées, je dois faire des formations supplémentaires. Et ça, c'est sous-estimé parce que en pratique, on peut peut-être être certain que quelqu'un qui a acquis une super expérience sur le terrain et peut-être même mieux formé que quelqu'un qui a suivi X formations. Donc, cette image de dire « oui, mais ils ont épargné des coûts et c'est la raison pour laquelle un accident est survenu, ils voulaient faire rapide, ils voulaient faire vite », je pense que cette idée est un peu fausse dans la substance.